Lesen wir zu Anfang nochmal Lukas 10, den Vers 21 gemeinsam.
Lisons Luc 10, 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » C'est merveilleux d'être dans ce tressaillement de joie et de participer à cela. Nous avons déjà entendu passablement hier soir sur ce mystère. Ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Ce n'est pas pour rien que c'est un mystère. Il faut qu'un mystère soit révélé. Un mystère n'est pas quelque chose d'évident pour tous. Et là, il faut une révélation. Il faut que ceux qui ont un esprit de recherche, ceux qui ont un amour pour les choses de Dieu, ceux qu'il a rachetés, eh bien, ceux-là, ils peuvent comprendre le mystère. Nous sommes devenus les enfants de Dieu, nous avons été rachetés, mais nous ne nous tenons pas pour intelligents. Soyons simples et purs et recherchons ce mystère. C'est bien, ce matin, on a vu la vision. La vision, quand on parle de ce mot de façon terrestre, c'est parfois un peu bizarre. Mais ce que le Seigneur nous a montré est tellement précieux. C'est ce qui est sur le cœur de Dieu. C'est une vision céleste. L'Église, son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, son chef-d'œuvre, le nouvel homme, l'épouse, sont toutes des images merveilleuses, glorieuses. Mais ce que j'aime dans ce titre, c'est que ça ne doit pas rester au stade de la vision, mais c'est une vision et une réalité. La vision est la réalité. Notre réalité ne sont pas que des choses dont on parle, qu'on se réjouisse d'avoir un peu plus compris certaines choses. Comprenez-moi bien, c'est plus que juste la compréhension. Ça doit devenir notre réalité à chacun d'entre nous. La réalité de chaque église, dans chaque localité, car Dieu veut avoir une représentation dans chaque localité. Lisons Éphésiens 3, 10. Il est écrit, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Aujourd'hui, c'est un verset tellement élevé. Dieu veut, par nous, au travers du corps, au travers de l'Église, montrer aux dominations et aux autorités sa sagesse infiniment variée par le corps, par vous. Paul l'a vu. Et il nous a fait connaître ce mystère. Ce qui me parle beaucoup, je voudrais qu'on lise quelques versets. Ces versets de Éphésiens 3 à partir du verset 14, c'est une prière en fait. Comme notre frère a dit, c'est pas quelque chose qu'on ne fait que lire. C'est quelque chose, c'est notre privilège de venir d'avoir de la communion avec le Dieu vivant. Lisons ces versets et ensuite je partagerai un peu sur ces versets pour les amener au Père. Levons-nous tous et lisons ces versets ensemble. Amen. 14 jusqu'à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Amen. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous fléchissons nos genoux devant le Père. Amen. Amen. À lui soit la gloire. Amen. De génération en génération, au siècle des siècles. Amen. Amen. Fortifie-nous dans l'homme intérieur, Seigneur, par ton esprit. Amen. Habite dans nos cœurs par la foi. Amen. Amen. Afin que nous soyons forts pour te saisir. Amen. Avec tous les saints. Amen. Afin d'être fort et de saisir avec tous les saints. Seigneur, tu fortifies tous les saints pour que nous puissions te saisir pleinement. Amen. Saisir la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Amen. 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 Afin d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Seigneur, tu es digne, tu es capable. Tu peux faire bien au-delà de tout. Merci de continuer de faire au-dessus de tout ce que nous pouvons penser, Seigneur. Amen. Merci pour la force qui agit en nous. Révèle à tout l'univers que tu es capable, Seigneur, de faire au-delà de tout ce que nous pensons. Seigneur, tu es celui qui est capable, l'unique capable. Amen. Amen. Au-dessus de tout, par-dessus tout. Amen. Amen. Par la force qui agit en nous. Amen. Ensemble, le verset 21. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. 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 Jésus.
Amen.
Voilà notre Seigneur devant lequel nous fléchissons nos genoux. Il est capable de faire tant de choses. Nous avons vu ce mystère, nous l'avons dépeint un peu, et aujourd'hui, nous commençons par le fait de fléchir nos genoux devant le Père. Ce n'est pas une forme extérieure. En nous mettant à genoux physiquement, mais Paul a réalisé que ce mystère était tellement grand que lui, en tant qu'humain, ne pouvait absolument pas intervenir, n'avait aucune capacité pour mettre une seule petite pierre dans l'édifice. Mais il y en a un seul qui est capable, et c'est notre Père. Il est celui qui amène ce mystère en existence parmi nous. Et Matthieu 6 nous dit, toi, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est très sain. Aussi, pendant la conférence, je ne sais pas d'où vous venez, tout ce qui vous a préoccupé cette semaine, le travail, l'école, quoi que ce soit, tant de choses nous occupent et prennent notre cœur. Mais ce matin, nous sommes ici. Et il est bon de fermer notre cœur à tout ce qui est derrière, à tout ce qui est de la terre. Fermons la porte de notre petite chambre. Et comme nous l'avons chanté ce matin, je t'ouvre mon cœur largement à toi et je viens à toi. Le frère a dit, nous ne devons pas être ici pour une personne, quelle qu'elle soit, ou parce qu'il y a des choses sympathiques ici, parce qu'on aime être ensemble. Non, notre vision est vraiment de venir à Dieu, nous ouvrir au Seigneur, avoir la communion avec notre Christ vivant, afin qu'il puisse écrire dans nos cœurs ce qu'il y a dans son cœur à lui, pas ce qui est dans notre cœur ou dans nos pensées, mais ce qui vient de lui. Et ce qui est saint, ce qui est bon pour nous, c'est de nous centrer sur le plan de Dieu. Tant de choses nous distraient dans ce monde. Il y a beaucoup de luttes parce que le plan de Dieu est ce qu'il y a de plus élevé. Et c'est combattu. Il y a des puissances, des autorités qui se rebellent contre ce mystère, contre cette révélation, contre ce plan de Dieu. Pourquoi ? Pour que ça n'arrive pas à son accomplissement, pour que ce soit freiné ou anéanti. Mais nous avons confiance en notre Dieu et Père, car il est capable. Matthieu 6:31 nous dit, et c'est très bien de le proclamer par la foi. Matthieu 6:31, ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Ça, ce sont des choses qui nous occupent durant notre vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on boit? De quoi serons-nous vêtus? Ça, c'est notre vie quotidienne. Et on est très souvent occupé par ces choses. Mais disons concrètement au Seigneur, je te donne ces choses. Je suis là pour ta maison. Je t'appartiens. Je suis ta possession. Et je te loue de ce que tu nous montres ton plan éternel. Ce n'est pas quelque chose qui va de soi, que le Seigneur nous fasse voir son mystère. Donc soyons aussi intelligents pour savoir comment nous devons nous occuper de ce mystère. Et ce passage continue avec le verset 33 en disant « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Cherchez, Seigneur, je veux m'orienter vers ce qui est de toi, vers ta volonté. Je suis là pour ton corps. Je suis une partie de ton corps. J'appartiens au corps. Et maintenant, si je dis tellement souvent « je », si tu regardes le verre, c'est bien d'avoir un verre devant nous, un verre d'eau. Comme le frère a montré hier, nous sommes un vase qui contient l'ensemble. Ça ne concerne pas juste moi en tant qu'individu, mais nous tous. Nous tous, nous sommes inclus dans ce plan. Et nous devons vraiment faire abstraction de l'individualité, l'individualisme. Tout ce que nous voulons nous apporter par nous-mêmes ne sert à rien. Le prendre soin de soi. Je poursuis ce qui me plaît, ce qui me convient, ce que j'aime, ce que je voudrais obtenir, atteindre. Non, toutes ces choses ne servent pas. Si on prend encore la suite, toujours du verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu est riche. Si nous nous dirigeons vers lui, si nous regardons à lui, lui et nous, et il prendra soin de nous, il comblera tous nos besoins. »
Amen.
Pourtant, on doit réaliser, si nous faisons ce pas, si, c'est un pas de foi, de dire « Seigneur, je te fais confiance entièrement, je te donne mon cœur entièrement. Je suis là pour que ton plan, pour que ce mystère puisse être amené en existence dans ma ville, pour que les autorités et les puissances dans les lieux célestes connaissent que là, Dieu habite. Que les hommes voient. C'est là que ça brille, qu'il y a un témoignage brillant, lumineux. Mais si nous prenons cette position-là, il y aura bien sûr aussi le combat. C'est immédiat. Tu prends position et l'opposition vient tout de suite. Paul a pris position et il a dû combattre tout de suite. Et il a dû dire, je ne cesse pas de remercier, de rendre grâce. Et il est tellement centré sur Dieu. Paul, dans Éphésiens 1:1, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous intéresse? Gagnons Christ avec toutes les choses qu'il nous a déjà montrées dans sa maison. Le combat ne cesse pas. À la fin d'Éphésiens, on voit toute l'armure de Dieu. Éphésiens 6:12. Le combat que nous combattons aujourd'hui n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils ne veulent pas apprendre à connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais Dieu est plus grand, notre Seigneur les a dépassés. Et Dieu veut vraiment remplir toute chose. Et les autorités dans les lieux célestes doivent déjà connaître aujourd'hui par l'Église. la sagesse infinie de Dieu. C'est un combat, nous devons en être conscients. Ça va rester un combat. Chaque cœur va être attaqué. C'est pénible pour nous d'apprendre que les uns et les autres se sont de nouveau éloignés, sont partis. C'est toujours tragique. Mais le Seigneur continue son œuvre et il est grand et il connaît les cœurs. Il conduit nos cœurs vers les courants d'eau et nous pouvons lui faire confiance que pour chacun de nous, il a l'approvisionnement dont on a besoin. Le Seigneur est riche. Quand Jésus était à Gethsémané, souvenez-vous, il a prié. Quand il a encouragé les disciples à prier, combattez avec moi. Mais les disciples se sont endormis. Dans Luc 22, on voit que c'est un ange du ciel qui est venu pour le fortifier. Il était dans une angoisse et il a prié plus instamment. Sa sueur était comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Est-ce que nous sommes conscients de tout ce qu'il a dû faire pour nous? Il a été obéissant jusqu'à la mort, à la mort de la croix. Il a combattu et il a vaincu. Il a obtenu la rédemption. Et l'Église qu'il a amenée en existence aussi à ce moment-là. Et il a anéanti, il a mis fin à l'œuvre de Satan. Et là, il a vraiment dû combattre dans ce jardin de Gethsémané terriblement contre toutes les puissances qui s'appesantissaient sur lui. Il était un homme comme nous. Il avait les mêmes sentiments, les mêmes ressentis que nous. Et là, il a dû certainement lutter contre sa propre vie, ses propres sentiments. Et il savait que Dieu était au-dessus de tout, puisqu'il a obéi jusqu'à la fin. C'était Luc 22, 43, quand l'ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Et Éphésiens 1, Amen, 15 à 16. Non, c'est afin qu'il vous fortifie dans votre homme intérieur. C'est selon ce que Dieu implante en toi, par son esprit, dans toute sa plénitude, dans toute sa richesse, dans sa clarté, qu'il nous fortifie. 3, 15 et 16. Éphésiens 3, 15 et 16, qui nous fortifie dans l'homme intérieur. C'est étonnant qu'il dise ici qu'on a besoin d'être fortifié par sa force. Cette force, c'est la même force que celle qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est étonnant. La puissance de vaincre, la puissance aussi qui a tout créé, cette même puissance, nous en avons besoin. Dans Galates 5, 17, nous voyons la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Nous sommes dans ce combat. Chacun d'entre nous, chaque jour, à nouveau, quelle partie de nous a le dessus? Sur quelle voix est-ce que j'écoute? Nous avons entendu parler hier des pensées. Les pensées sont souvent des pierres d'achoppement. Nous pensons de façon logique, comme nous imaginons comment quelque chose doit être. J'aime bien cet exemple. On assemble tout ce qui va ensemble, on prend les mêmes caractères, on fait des petites orientations. On organise les choses, mais on est souvent comme ça. Ici, je ne peux pas bâtir parce que les frères et sœurs n'ont pas le même âge que moi. Il faut que j'aille quelque part d'autre. Avec ce frère, j'ai des problèmes. Heureusement qu'il y a encore des églises ailleurs où je peux aller voir. Là, c'est comme si on faisait des tris. Nous avons besoin de cette gloire du Seigneur. Nous avons besoin de cette richesse qui nous rassemble, qui nous unit. Le Seigneur veut traiter notre moi. Mais oui, là, on a besoin de la puissance, de la force, parce que pour me décider, Seigneur, je suis à toi. Seigneur, je veux bâtir comme toi tu le veux, comme ça te plaît à toi. Seigneur, je ne veux rien amener de moi-même, même si ça fait mal. Seigneur, là, il faut de la force. C'est pas si simple. Dans 2 Corinthiens 13, il y a un verset qui dit, on peut lire 3 à 5, 2 Corinthiens 13, 3 à 5. Pardon, c'est 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Lisons tous ensemble. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
Amen. Amen. Ist doch erstaunlich, was unsere Gedanken.
C'est étonnant ce que nos pensées
ne
devraient pas seulement me limiter aux pensées, mais notre moi, notre être naturel. Quelle forteresse c'est? On doit vraiment s'en rendre compte. C'est un potentiel, c'est une forteresse. Elle est en chacun de nous.
Et
il faut de la force pour qu'elle soit détruite. Je trouve ces versets très forts et nous montrent combien nous sommes rebelles, combien nous sommes forts en nous-mêmes. Et ça commence par nos pensées. On a parlé de division. Où c'est que ça commence, la division? Ça commence par mes pensées, mon cœur. Et là, il est bon, en toute simplicité, de nous ramener à Christ, de prier devant le Seigneur avec beaucoup de foi. Seigneur, fortifie mon homme intérieur selon ta richesse, selon ta puissance. L'esprit que nous avons reçu, que dit Timothée, c'est un esprit, non pas de lâcheté, non de peur. Tu ne lâches pas. Oh, je suis tellement fort en moi-même, qu'est-ce que je peux faire? Non, l'esprit en nous est fort, l'esprit devant lequel nous fléchissons les genoux, où Christ est la tête de l'Église, où nous pouvons nous tenir debout aujourd'hui, devant lequel nous nous tenons debout. Il est plein de force, plein d'amour et plein de sobriété. Tendons à cela, approchons-nous de lui avec un cœur plein de foi. Nous n'avons pas besoin de regarder à nous-mêmes. Il n'y a aucune capacité en nous-mêmes. Nous sommes rachetés par grâce. Et qu'on soit encore là aujourd'hui, c'est vraiment par grâce. Que personne ne se vante d'être là parmi nous. C'est vraiment par sa grâce que nous pouvons nous rassembler aujourd'hui ici. Parce qu'il est fidèle, il est avec nous, il est fidèle sur toute sa maison. Amen. Éphésiens 3:17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Que vous soyez fort. Ne prenez pas ces versets pour vous-même. Comprenez-moi bien. Bien sûr, chacun de nous doit prendre ce chemin, cet accès. Si tu ne prends pas ce chemin-là, alors tu manques tout. Mais d'un autre côté, il est parlé d'amour. Hier aussi, on a parlé un peu de cela. Tout ce qu'il est et qu'il nous donne n'est pas pour moi en tant que tel, mais pour l'édification, pour le corps entier. Bien sûr, c'est central de savoir qu'on est aimé. Nous sommes enracinés et fondés. Ça va vraiment profondément dans notre cœur. Ça nous consolide. C'est notre fondement sur lequel nous nous tenons. Si un arbre est bien enraciné, la tempête peut souffler, l'arbre va résister. Paul témoigne dans Romains 8, 35. Qui nous séparera de cet amour? Est-ce que c'est la mort, la vie, les anges, les dominations, les choses présentes, les choses à venir? Non, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul dit qu'il est persuadé. Parfois je me sens aimé, parfois je ne me sens pas aimé. Nos sentiments sont très variables. Mais là, Paul dit qu'il est persuadé. Il sait, il a la certitude, parce qu'il connaît son Seigneur, parce qu'il sait qui est son Seigneur, il est persuadé que rien ne pourra le séparer de l'amour de Dieu. Le Dieu vivant devant lequel nous nous tenons, je sais que rien ne pourra me séparer. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, verset 38, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifestant Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est ainsi que notre Dieu nous aime. Chacun d'entre nous, il nous aime chacun particulièrement de cette manière. Et cet amour a été déversé dans nos cœurs pour les frères et sœurs. D'un côté, pour moi, je sais, mon Dieu m'aime de cette manière. Il l'a prouvé à la croix. Aussi dans Jean 15, 13, il est écrit, personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Il l'a prouvé, notre Seigneur. De l'autre côté, il a déversé cet amour dans nos cœurs pour nos frères et sœurs. Regardez à côté de vous. Il y a un frère, une sœur à côté, devant. Ça vaut pour chacun de nous. Son amour a été déversé dans nos cœurs, à chacun, chacune. Et là, il y a une parole qui nous montre que le Seigneur veut aussi nous amener dans la réalité, nous amener d'une vision à la réalité. Il y a beaucoup de choses qu'on sait, c'est bien de connaître les versets. 1 Pierre 1, 22. Il ne suffit pas de savoir qu'on est aimé, mais qu'on arrive dans cette réalité. 1 Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. Wow. De tout votre cœur. Mais je remarque, et je pense qu'on a tous cette même impression, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est pas quelque chose qui vient naturellement. C'est bien sûr à disposition parce que Jésus est en nous, mais à qui est-ce que je donne la supériorité? Est-ce que j'aime encore mon frère quand il me marche sur les pieds? Quand ça devient difficile? Quand la connaissance est entre nous, dans ce chapitre, il en va du fait que Dieu nous a tout donné pour que nous allions ensemble chercher sa plénitude, pour que nous puissions saisir avec tous les saints. La longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur est l'amour de Christ qui surpasse toute chose. On revient à Éphésiens 3. Afin d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est le but de Dieu avec nous. Est-ce que tu arrives à te représenter ça? Nous devons être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu pendant notre vie sur la terre. Paul dit, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est pas une fois dans le futur, non. Bien sûr, il va accomplir son plan, il va atteindre son but. Mais est-ce qu'il va l'atteindre avec nous? Maintenant, aujourd'hui? C'est un combat. Ça va rester un combat. Pour qu'on puisse ensemble poursuivre, pourchasser, saisir, parce que chacun de nous, jusqu'à la fin de sa vie, aura des problèmes dans sa vie charnelle. Tout à fait normalement. L'esprit combat la chair, contre l'esprit. À quel domaine donnons-nous la priorité? Sur quoi sommes-nous fixés?
Amen, Jésus.
Est-ce qu'on veut chercher ensemble le Seigneur? Est-ce qu'on veut croître ensemble dans son plan? Dans Éphésiens 4, c'est écrit de façon tellement pratique comment concrètement cet édifice est représenté. Dieu veut qu'on vive ensemble pour qu'il soit exprimé, comment il est glorifié, comment il nous assemble de petites plaquettes de verre ensemble, réunies dans chaque localité. Les plaquettes de verre, c'est l'exemple de hier. Hein. On est tous représentés par une petite plaquette, mais quand elles sont fondues ensemble, on forme un vase. Ensemble, nous pourchassons, nous poursuivons. Et il est bon de voir qu'en poursuivant une poursuite dans l'amour, nous avons une pleine confiance en notre Père qu'il va le faire. 1 Corinthiens 13, 2. On voit qu'il est question de connaître, reconnaître. Et ça me rappelle ce qu'on a eu hier. C'est une bonne image. On a ces petites plaquettes de verre. S'il y a une plaquette qui déborde, si j'ai la connaissance, et si j'ai tous les mystères, et si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, c'est comme si ça débordait vraiment de cette plaquette. Ça déborde de partout. Mais c'est pas ça qu'on doit regarder. Ça me glorifie moi si je regarde à ce résultat-là. C'est que ma personne devient si grande, si importante, et que j'oublie, que j'en oublie, que le Seigneur a préparé encore. La suite, c'est « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » C'est des versets aussi tellement clairs. « Je n'ai rien si je n'ai pas l'amour. » Tu peux avoir toute la connaissance, toute la science, même la foi qui transporte les montagnes. Mais si tu n'as pas l'amour, alors il n'y a rien. Si tu n'as pas l'amour pour le corps, pour son dessein à lui, tu n'as rien. Nous pouvons aimer beaucoup de choses. Nous pouvons bâtir beaucoup de choses. Et les chrétiens bâtissent de tant de choses. Ils font tant d'opérations diverses. Je ne veux pas juger ici, mais je voudrais bâtir ce que le Seigneur m'a révélé, ce que le Seigneur veut bâtir. Ce mystère qu'il nous révèle que Dieu veut bâtir quelque chose. Nous savons que tout ce qui vient de la terre partira. De notre vision, cette vision de l'édification, nous devons atteindre la réalité très pratiquement à chaque endroit où nous nous rassemblons. Et ça ne va que si nous collaborons ensemble, si nous ne sommes pas prêts à laisser notre vie naturelle pour l'Église. Alors Paul a dit lui-même dans Philippiens 3, 15, « Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. » Avant, il dit qu'il a reconnu, il a connu le Seigneur, il a vu ce mystère. Et il a reconnu une chose, qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien sur cette terre qui vaille la peine d'être poursuivi. Tout doit être laissé de côté. Pour lui, il a vu ça clairement. Hier, On a vu que les jeunes gens là, vous bâtissez votre vie. Quel but as-tu? Quelle profession choisis-tu? Où vas-tu habiter? Où conduit mon voyage? Il y a beaucoup d'années qui s'annoncent devant moi. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Ceux qui sont déjà plus âgés peuvent témoigner, il n'y a rien de ces choses, de ces peut-être carrières glorieuses et belles, il ne reste rien à la fin. Qu'est-ce qui reste? Le seul qui va rester, c'est notre Seigneur et l'Église. Celle-là qu'il bâtit, et ça va jusque dans l'éternité. Paul a vraiment considéré toute chose comme une perte. Philippiens 3:8. Il a reconnu son Seigneur, il l'a connu, il l'a vu. Il a vu ce que Christ fait aujourd'hui et combien c'est glorieux. De l'autre côté, il ne s'est jamais reposé sur ces choses, et c'est aussi un point très important. Même si on a déjà beaucoup vu, et on peut être reconnaissant pour tout ce que le Seigneur nous a déjà montré et opéré parmi nous, tout ce qu'il a déjà bâti avec nous, pour tout ce qu'il a déjà assemblé, tous les combats qu'il a déjà remportés, tout ce qui est déjà devenu sien de nous. Philippiens 3:12, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Il sait que le Seigneur est toujours encore plus riche que ce qu'il a déjà atteint. Le Seigneur est plus grand que tout ce qu'on a déjà pu atteindre. Nous ne devons pas rester figés, mais continuons cette course, poursuivons, pour saisir Christ dans sa plénitude encore davantage. Je n'ai pas encore saisi, ce n'est pas encore accompli, mais je cours, afin que je saisisse parfaitement. J'oublie ce qui est en arrière, le verset 13. J'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. C'est bien d'oublier par moments ce qui est derrière. Dans notre marche, ensemble, il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous pouvons vraiment louer le Seigneur. Et dans Éphésiens, on a la fin de cette prière où on voit que nous devons vraiment toute la gloire à notre Dieu. Nous devons louer notre Dieu pour tout ce qu'il est pour nous, tout ce qu'il fait en nous. Et d'un autre côté, il est bon aussi d'oublier ce qui est en arrière. Oublier qui a déjà marché sur mes pieds. Oublier toutes les difficultés que nous avons déjà dû traverser. N'oublions pas que Christ a remporté la victoire, mais notre moi est aussi souvent affecté. Nous gardons des choses dans notre cœur et nous ramenons ces choses quand on en a l'occasion. Mais c'est bien de laisser ces choses de côté, les laisser derrière nous et de les laisser laver par le sang de Christ.
Amen.
Encore une fois, dans la conclusion de cette prière de Éphésiens 3, on peut lire ensemble les versets 20 et 21. Éphésiens 3, 20 et 21. Ensemble. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, on est vraiment centré sur le Seigneur. Il est celui qui est capable. Ce verset me traverse toujours. Paul vraiment fait mention à ça, comme aussi dans 1 Timothée 2. De Timothée 1, 12. C'est à cause de cela que je souffre ces choses. Paul a beaucoup souffert et nous aussi, nous souffrons. Il y a des turbulences, des difficultés. Dans notre marche, il y a cela. Paul n'en fait pas abstraction. Mais cela ne doit pas nous décourager. Mais il sait, Paul sait, il est persuadé qu'il sait en qui il a cru. De Timothée 1, 12. Je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Le Seigneur est capable et il le veut. Il a tout donné pour ce but-là. Et là, au verset 20, Éphésiens 3, 20, la puissance par la puissance qui agit en nous. Le Seigneur est capable de faire au-delà de tout ce que nous pensons. Bien au-dessus de tout ce que nous pensons. Le Seigneur est comme ça. C'est un fait. Aujourd'hui, par son esprit, dans sa maison, en tant que le vivant, il est là pour nous. Et là, on voit la puissance qui agit en nous. Ça montre bien que je dois considérer combien de place je donne à mon Seigneur dans mon cœur. Cette puissance infinie, elle est là. Je dois vraiment freiner ce vieil homme. Mon vieil homme est fort. Mon vieil homme est puissant, je dois l'avouer. Et c'est pourquoi on doit vraiment ouvrir notre cœur au Seigneur et dire, Seigneur, je veux te saisir davantage avec mes frères et sœurs. Il y a un témoignage dimanche dernier qui m'a vraiment frappé. Combien chaque membre est important. Et il a dit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de vous. Besoin de vous pour saisir Christ davantage. Nous manquons tant de sa richesse. Quand je suis dans mon moi, ouais, le Seigneur est merveilleux et il œuvre merveilleusement chacun. Mais la plénitude, nous l'expérimentons dans le corps. Nous ne pouvons pas aller seuls. Nous avons besoin du corps. Nous avons besoin du frère, de la sœur qui est à côté de toi. Et là, nous pouvons vraiment louer le Seigneur pour toute sa sagesse. Il a placé chaque membre, chacun de nous, dans sa sagesse. Il a mis tel et tel dans l'endroit où nous sommes. Il est capable d'amener cette gloire en existence parmi nous, qu'on le réalise ou non. C'est une certitude. Quand je regarde à moi, je ne peux pas me représenter ça. Quand je regarde les frères et sœurs, je ne peux souvent pas me représenter ça, mais Dieu est capable et il le fait. Si nous nous ouvrons à lui en toute simplicité. Et je suis reconnaissant que cette prière de Paul se termine par une louange à notre Dieu. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. J'ai mis quelques psaumes là dans le résumé qui montrent combien cette louange est bonne pour Dieu. Dieu apprécie les louanges. et que nous sommes appelés à louer le Seigneur. Nous pouvons le remercier qu'il nous parle durant ces jours. Nous lui donnons vraiment toute la gloire, qu'il nous parle, qu'il nous donne l'impossibilité de pouvoir nous rassembler à nouveau. Ne pensez pas que c'est si simple. Non, il y a des autorités et des puissances qui s'opposent à cela. Mais Jésus a remporté la victoire. Lisons le psaume 66, 1 à 5. Psaume 66, 1 à 5, pour conclure. Amen, Seigneur.
Amen.
Amen. Tous ensemble. Ô chef des chantres, cantique, psaume, poussez vers Dieu des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Amen.